Qu'est-ce qui se passe en Iran? On n'y est pas, c'est dur de faire confiance. Et on est soumis à la couverture médiatique usuelle, avec bien sûr bien des penchants au Québec. Le penchant de Radio-Can, entre autres. Ouais, faut pas trop... Ouais, on va critiquer tout ça ensemble avec Mme Dana Javan, assurément, que vous avez entendu sur différentes tribunes, qui a de la verve et qui a beaucoup de courage également. Comment ça va ce matin, Mme Javan?
Bonjour, merci, ça va bien.
Un grand plaisir de vous parler.
Oui, merci. Merci pour l'invitation.
Quelles sont les dernières nouvelles que vous avez de votre côté? Vous êtes branché, vous avez encore beaucoup d'amis, connaissances, ouais, parentés en Iran. Vous êtes à Montréal. Ouais. Qu'est-ce que vous savez?
En fait, malheureusement, depuis hier, ils ont mis en place un système pour brouiller les signaux de Starlink. Parce que tout ce qui sortait de l'Iran, c'était grâce aux terminaux Starlink que les gens avaient pour envoyer les vidéos puis les nouvelles de l'Iran. Alors depuis hier, ils ont mis au niveau de télécommunications certains systèmes. Alors tout est brouillé. Donc, même les systèmes de Starlink, ça ne fonctionne plus. Alors, on est dans une blackout complet. Fait qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Mais hier, les dernières nouvelles étaient que on est arrivé à 8000 morts. Mais ce qui me choque profondément, c'est que les organismes humanitaires sur place, ils font que le compte des tués qui sont identifiés. Donc, s'il y a des cadavres qu'on ne connaît pas l'identification de la personne, on ne va pas le compter comme quelqu'un qui est mort. Alors, à date, ils l'ont juste identifié 648 personnes tuées, tandis qu'il y en a des milliers de cadavres.
Quelle est l'origine du soulèvement?
En fait, l'élément déclencheur cette fois-ci, c'était le grand bazar de Téhéran, les marchands, les commerçants qui sont en fait une classe assez riche, très religieux, conservateur, attaché au pouvoir depuis 47 ans. On a eu tellement de protestations, soulèvements, des manifestations contre régime, surtout depuis 2009. Ils n'ont jamais rejoint les mouvements populaires. Mais cette fois-ci, ils l'ont fait. Il y a une version qui dit parce que Netanyahou est allé voir Trump pour prendre la permission de cette fois-ci frapper le guide suprême qui était caché dans les tunnels en dessous de Grand Bazar. Puis ils voulaient, par leur manifestation, le forcer à sortir de là. Et le bazar de Téhéran, les marchands, ils ont un grand rôle pour garder le régime en place. Même en 1978, le régime de Shah a shooté le moment que Bazar a le laissé tomber. Donc, ça a été l'élément déclencheur, mais les Iraniens, on est en train de vivre sous la répression théocratique, fanatique, islamiste depuis 47 ans. Mais le système, c'est pas comme les talibans ou la Daesh. Le régime iranien, c'est un régime islamo-gauchiste. C'est une alliance entre les islamistes et la gauche. La raison pour laquelle, d'ailleurs, les médias de gauche, que ce soit en France, en Angleterre, en Europe, ici au Canada, on voit comment ils minimisent. Cette alliance-là, ça a été vraiment pas juste mauvais pour l'Iran. C'est sûr que nous, on a beaucoup souffert, les gens de Moyen-Orient, ils ont beaucoup, beaucoup souffert de cette alliance. C'est sûr que au niveau de s'approprier nos ressources naturelles, ça a beaucoup aidé l'Europe, ainsi que les démocrates américains. Mais les gens, ils peuvent plus, là. Ils peuvent plus parce que ils vont aller mourir dans les rues parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Moi, pendant que ici, Radio-Canada, il criait à la famine à Gaza, on voyait les faces des enfants, des gens qui étaient là, sont tous chubby, sont tous en bon physique. Puis là, je disais, la vraie famine, ça se passe en Iran. Puis les Iraniens, c'est une nation très fière. Hein? On est fiers, on est orgueilleux. On veut pas jouer le rôle de la victime, ce qui est exigé de la part de la gauche. Si on n'accepte pas l'étiquette de victime, il n'y a aucun organisme humanitaire qui s'intéresse à l'Iran. Il n'y a personne qui va parler de la situation des Iraniens.
Et les médias comme Radio-Canada ont longtemps hésité et hésitent encore à critiquer l'Iran parce que c'était le régime antisémite par excellence, très commode. Très, très, très commode.
Exact. Mais j'ai peur que ça soit plus que ça. Et en fait, Khomeini incarne, sa révolution incarne le combat contre l'impérialisme américain. Alors, c'est combat contre l'impérialisme...
Dont Israël est le pic, l'apothéose,
exact.
À leurs yeux.
Exact. Ah, exactement. Fait que moi, je peux comprendre qu'il y a des gens en Chine, dans la Russie, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, à Moyen-Orient, qui vont rejoindre à ce mouvement-là. Mais je ne comprends pas comment on peut être nord-américain, comment on peut être occidental, et comment on peut être héritier de la civilisation occidentale avec toutes ses valeurs, puis on combat contre soi-même.
Prenons l'égalité homme-femme. C'est toute féministe intelligente au Québec devrait prôner l'égalité homme-femme et devrait réagir avec férocité devant toute forme de religion ou de mouvement qui met les femmes en deuxième. Comme l'islam radical, par exemple. C'est fou! Donc, le mouvement islamiste s'oppose à l'égalité homme-femme et s'oppose aux libertés sexuelles. Il s'oppose aux minorités sexuelles aussi.
Oui, mais ce n'est pas juste... Ayons le courage de le dire. Ce n'est pas juste la question de l'islam radical. D'ailleurs, quelque chose comme l'islam radical n'existe pas. Je comprends qu'on est très prudent à faire ça parce qu'il y a 3 à 5 % de l'islam qui est spiritualité, puis qu'on veut quand même...
L'islam des frères musulmans, l'islam militant, qu'on pourrait dire, non?
Non, mais frères musulmans, ça n'existe que depuis 100 ans. Mais si on regarde l'histoire de l'islam depuis 14 siècles, c'est exactement la même chose. C'est toutes ces notions-là, comme l'islamisme, l'islam politique, l'islam radical, ça a été inventé par la gauche française au premier place, qui a donné tant de place pour les islamistes à avancer, justement. Alors, moi, puisque je suis au Canada, puis au Québec, puis en Amérique du Nord, en Occident, je fais cette différenciation-là dans mes discours publics pour laisser à côté quand même les musulmans qui ne veulent pas imposer la charia, les musulmans qui ne veulent pas imposer la partie politique, étatique, administration publique de l'islam, mais quand même c'est 95% de l'enseignement de l'islam. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas minimiser ces 95% pour le restant 5%. Moi, je suis née dans un contexte musulman. Je vais rester musulman, même si je ne pratique pas, je ne veux rien savoir. Et les enseignements islamiques, ça fait partie de mon existence. Ça va rester toujours dans ma tête. Donc, je suis une musulmane. Mais des musulmans comme moi, il y en a des 10 milliers ici au Québec. Le temps que quelqu'un ne veut pas imposer la charia, qui est le système juridique islamique, et les préceptes de gestion ou administration publique, financière, la mode de vie sociale, la ségrégation au niveau des musulmans, non-musulmans, femmes, hommes, moi, j'ai pas de problème. Ça veut dire que la personne reste musulmane dans cet intervalle de 5%. Mais le reste, ça a été toujours la même chose depuis 1400 ans. Il faut pas l'oublier.
Comment vous trouvez le travail de Radio-Canada? Et si vous trouvez que Radio-Canada a un billet, d'où vient ce billet?
Mais c'est ça. malheureusement, de plus en plus, je remarque que c'est pas juste un biais inconscient. C'est vraiment une stratégie idéologique. Ça fait des années que les Iraniens, depuis 2009, qu'on est en train d'essayer de conscientiser, sensibiliser Radio-Canada, parce qu'au début, on pensait qu'ils ne savent pas. Et maintenant, après tous les processus qu'on a faits, les plans de l'ombudsman, l'explication, ils continuent à faire la même chose. Donc, pour moi, c'est vraiment une prise de position idéologique très, très assumée et très solide. La seule chose qui me dérange, parce que moi, je n'ai pas cette sensibilité-là envers, par exemple, TVA ou LCN, parce que tous les autres médias qui sont privés, bon, sont privés. Ils ne sont pas financés par l'argent des contribuables.
Exact.
Mais on ne peut pas être un média public et en plus de se choquer devant les gens qui se doutent qu'il est rendu un média étatique et d'adapter une idéologie islamo-gauchiste comme un discours qui veut protéger un régime sanguinaire comme le régime...
Qu'est-ce que vous reprochez à Radio-Canada directement?
Regardez, depuis que s'est rendu la révolution, depuis que c'est arrivé, on n'a pas eu pour les premières 12-13 jours aucune couverture. Tandis que si vous alliez sur YouTube, tout le monde dans le monde parlait de l'Iran. Alors ça, pour nous, les Québécois, Québécoises d'origine iranienne, c'était une manque de reconnaissance qu'il y a quelque chose au niveau démocratique, mouvement social qui se passe en Iran parce que les gens, ils ne veulent pas se réveiller.
Est-ce que c'est par ignorance ou sciemment, il y a une stratégie?
Non, non.
Et si il y a une stratégie, c'est qui mène cette stratégie-là?
En tout cas, moi, ce que moi, personnellement, oui, oui. Puis c'est documenté, en fait, dans mes approches, je me suis rendu compte, c'est que la salle de nouvelles de Radio-Canada, Téléjournal et l'autre est infiniment et extrêmement sous l'emprise et la domination de la Sainte Famille Khadir Inc.
La quoi?
Alors, moi, j'appelle les Khadir, Amir Khadir, Nima Machouf et leur réseau. Moi, je les appelle la Sainte Famille Khadir Inc.
Point. Ah, la Khadir, ouais, je comprends. Okay. La Sainte Famille Khadir. Je comprends, oui, oui. Ouais. Québec solidaire, finalement, là, en général. Ils n'ont jamais critiqué Québec solidaire.
Exact, mais c'est plutôt vraiment la famille Khadir parce que autres, ils font partie d'une opposition du régime qui s'appelle Mujahideen du peuple, qui sont un mouvement extrémiste, paramilitaire, révolutionnaire.
Mais les autres sont contre ça. Khadir, il dit souvent quand même, on va lui donner, il faut être honnête, lui, on rapporte ses propos. Lui dit que sa famille a quitté l'Iran parce qu'il voulait fuir le régime des ayatollahs quand même. Il le dit, là.
Mais il faut faire attention, l'ennemi de mon ennemi n'est pas mon ami. Et c'est pas parce qu'ils sont opposants, parce qu'ils sont opposants du régime, parce qu'ils font partie d'une idéologie qui est beaucoup plus extrême dans l'islamo-gauchisme. Ils font partie d'une idéologie qui est staliniste-islamiste.
C'est des communistes, alors, ça c'est sûr, mais en même temps, c'est, vous prétendez ça, vous le croyez, Nima Machouf, qui a dénoncé quand même le régime des ayatollahs dans les derniers jours. C'est pas mon ami, ni moi, Machouf, elle ne veut même pas me parler, mais quand même,
ça,
non?
Okay. Mais comparez ça, s'il vous plaît, avec oui. ce qu'elle a fait pour Gaza et les films oui. qu'il a joués pour Gaza. Comment ça se fait que dans le cas de Gaza, il n'a eu aucune nuance, que c'était un grand horreur, que c'était inacceptable? Mais quand ça arrive au régime, tout à coup, il devient tout nuancé. Puis quand on lui demande que, bon, maintenant, Internet est coupé, les gens, c'est en blackout, il dit, ouais. Mais non, quand même, il y a des gens qui, ils commencent à expliquer qu'il y a des choses qui sortent, c'est pas vrai. Comment ça se fait que dans le cas de l'Iran, même si elle dénonce, parce qu'il faut avoir vraiment beaucoup d'éducation politique oui. et stratégique, rhétorique pour pouvoir décoter ces gens-là. Il faut pas oublier Moyen-Orient. Tous les gens de Moyen-Orient sont très, très habiles au niveau des rhétoriques politiques. Pourquoi elle dédramatise quand même? Elle devient tout à coup très, très nuancée. Tandis que s'il y avait juste une bombe quelque part à Gaza, c'était la fin du monde. C'était une grande crise.
Oui, parce que ça venait d'Israël.
Exactement. Parce que les Iraniens, d'ailleurs, depuis le massacre de 7 octobre, les Iraniens y ont toujours appuyé l'Israël. Et on comprend que ça ne fait pas plaisir à la gauche occidentale. Et ils sont en train, elle est en train de fanger contre les Iraniens. C'est pour ça qu'on n'est pas les bonnes victimes. On n'est pas considérés. Alors, il ne faut pas oublier, s'il vous plaît, il y a beaucoup de mouvements d'opposition en Iran contre le régime. Ce n'est pas vrai que les gens, démocratiquement, ils acceptent ces gens-là.
Non, non, non.
L'ennemi de mon ennemi n'est pas mon ami.
Madame Javan.
Ce qui me dérange, oui, c'est que les gens qui sont invités par Radio-Canada, que ce soit Shahzad Adib, que ce soit l'autre féminin, je ne sais pas quoi, ils sont tous des proches de la famille Khadir. Comment ça se fait-il que Radio-Canada n'est pas capable d'aller chercher d'autres voix que ce voix-là, qui est une voix islamo-gauchiste encore plus extrême que le régime?
Question brutale. Est-ce que Donald Trump devrait attaquer?
Mais ça fait des jours et des jours que les gens en Iran, ils écrivent sur les papiers « Trump help ».
De quelle manière il devrait attaquer? Il devrait attaquer quoi? Qui? Comment?
Mais comme Israël a fait, Israël a massacré tous les grands leaders. Vous savez, mais maintenant, je comprends que à cause des soulèvements, c'est très compliqué. Mais au moins, sur terrain, avec les gens, au niveau des connexions Internet, au niveau de aller voir peut-être par leur agent les militaires, parce que petit à petit, les militaires, ils rejoignent les gens. Il faut les centres de Bassige, les centres du corps des gardiens de révolution,
oui,
les leaders. Il y a des façons de faire sans vraiment aller, par exemple, bombarder l'Iran. Puis le guerre de nerfs, c'est vraiment Ayatollah Khamenei. Mais sincèrement, comme une iranienne, j'aimerais qu'il soit, qu'il reste vivant, qu'on le ramène dans un cours, qu'il soit, parce que ça va être une grande, immense leçon pour tous les tyrans du monde, ainsi que pour les idiots utiles de la gauche occidentale qui veulent protéger ces tyrans-là, comme Maduro, les yeux fermés au nom des lois internationales. Si ces tyrans-là, ils peuvent aller se cacher derrière les lois internationales, donc ces lois-là ne sont plus bons. Il faut les repenser.
Madame Javan, merci infiniment. Et continuez votre combat et continuez
très...
de... Non, non, mais vous excusez pourquoi?
Vous comprenez.
Non. Vous laissez aller. Vous avez eu une belle tribune. On va se reparler assurément. Parce qu'évidemment, il y aura encore des prières de rue à Montréal. J'ai hâte de voir comment le gouvernement va gérer ça. Il y a une loi, mais comment on va l'appliquer? De quelle manière? Les policiers ont une patate chaude dans les mains. Comment ils vont faire pour l'appliquer en espérant qu'ils seront plus vigoureux que la police de Toronto qui mène un travail minable. Oui. C'est gênant de voir ce qui se passe à Toronto alors que le chef de la police demande de l'aide. C'est la fucking police. Donc, si la police demande de l'aide, vraiment, on est désespérés. Allez-y, le mot de la fin, je vous le laisse.
Oui, quand même, nos mouvements civiques, nos mouvements populaires ont donné beaucoup de faits parce que ça n'existe pas à Toronto. Et c'est ça qui les laisse aller. Ici, ils se sont calmés quand même beaucoup, beaucoup par rapport à ailleurs. C'est pas juste Toronto, hein. Ailleurs au Canada, c'est pareil que Toronto. Alors, c'est parce qu'ici, les gens, ils l'ont pris quand même à Montréal, les choses en main. Ça n'a pas été rien. Fait que, espérons que ça va aller de mieux en mieux.
Avec Carney qui donne des subventions pour le halal, on est mal parti aussi, là.
Oui, pas juste pour les halal, pour les centres islamiques, on oublie ça. Il y a eu 42 millions, je pense, en mois de novembre. Fait que,
et la belle ville de Québec qui va donner des subventions pour honorer la mosquée de Québec, qui va éclairer toute l'université en vert, la couleur verte.
Wow. Ça, j'étais pas au courant, mais toutes mes félicitations. Hein?
Donc, voilà. Ouais. Alors que Bissonnette, le salaud, est en prison, on le sait, c'est lui qui a commis ça, il faut le condamner.
Ouais,
il a été condamné. C'est juste que là, on semble disséminer le message que c'est l'entièreté de la ville qui est islamophobe et il faut vraiment s'excuser.
Non,
la couleur verte, je ne sais pas, c'est la couleur de... Je ne sais pas ce que ça représente.
Mais
là,
il y a tant de crimes, il y a eu tant d'attentats terroristes faits par les islamistes dans le monde.
On devrait les honorer, ces victimes-là aussi.
Voyons, il y a...
Merci beaucoup, Mme Javanne, c'était un grand plaisir.
Merci,
au revoir. Quel sujet? 8h33, à Radio X dans Montréal Live, 88-670-9098. Dan?
Que dire de plus?
Elle est courageuse.
Magnifique.
Elle est courageuse.
Magnifique.
Elle sort dans la rue, elle dénonce les islamistes à Montréal.
Elle est splendide. Pour vrai.
Magnifique. J'ai donné énormément de temps. Tribune, elle est très émotive.
C'était extraordinaire. Écoute, ça prend beaucoup, beaucoup de courage. Beaucoup. Puis elle nomme les choses. C'est le fun, ça. L'année 2026 est bien partie parce qu'on a de plus en plus de monde qui nomme les choses.
Oui, nommer les choses, dénoncer, questionner, et on a le droit de le faire. Et on va prendre le droit dans Morelève de le faire.